18. Il ouvre les yeux. Mais avant ça, il prend conscience de l'odeur. L'odeur du foin, mais très faible, presque éventée. Un fantôme d'odeur, on pourrait dire. Et lui, est-il un fantôme? Il se redresse et regarde autour de lui. Si c'est la vie après la mort, alors tous les livres du monde, y compris celui dont il s'est servi pour prêcher, se trompent. Parce qu'il n'est ni au paradis, ni en enfer, il est dans une étable. Sur le sol, il voit de vieux brins de paille. Les fissures dans les murs de planches laissent filtrer des flots de lumière éclatantes. C'est la lumière qui l'a suivi à travers les ténèbres, se dit-il. C'est la lumière du désert. A-t-il des raisons objectives de penser ça? Peut-être. L'air est sec dans ses narines. C'est comme respirer l'air d'une autre planète. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est la planète de la vie après la mort. Il entend toujours le carillon, à la fois merveilleux et horrible. Mais il s'évanouit, puis disparaît. Le vent chaud souffle doucement. Il en passe un peu entre les planches des murs, et quelques brins de paille se soulèvent du sol, exécutent une petite danse lasse. Puis retombe. Puis vient l'autre bruit, comme un martèlement arythmique. Une machine est pas au mieux de sa forme, en jugé par le bruit. Il se lève. Il fait chaud ici, et il se retrouve immédiatement le visage et les mains en sueur. Il baisse les yeux vers le bas de son corps et constate que ses beaux habits Grand River ont disparu. Il porte un jean et une chemise en chambray délavée. Au pied, il a une paire de bottes fatiguées aux talons éculés. Elles ont l'air d'avoir parcouru 1 kilomètre desséchées. Il se penche et se palpe les jambes à la recherche d'éventuelles fractures. Il ne semble pas en avoir. Il fait de même avec les bras. Aucune trace de fracture. Il essaie de claquer des doigts. Pas de problème. Il entend le petit bruit de brindilles sèches qui cassent. Il pense, est-ce que toute ma vie n'était qu'un rêve? Est-ce que c'est ça, la réalité? Si c'est le cas, qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais ici? Et des ombres profondes derrière lui montent ce martèlement fatigué. Boum, 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 boum. Il se tourne en direction du bruit et reste bouche bée. Dressé au milieu de l'étable abandonnée, il voit une porte. Elle n'est pas encastrée dans un mur, elle se tient là, toute seule. Elle a des gonds, mais pour ce qu'il en voit, il s'articule dans le vide. Des hiéroglyphes sont gravés à mi-hauteur du panneau. Il ne parvient pas à les déchiffrer. Il s'approche, comme si ça devait l'aider à comprendre. Et c'est ce qui se produit en un sens. Car il voit le bouton de porte en cristal gravé d'une rose. Et il a lu Thomas Wolfe. Une pierre, une rose, une porte dérobée, une pierre, une rose, une porte. Il ne voit pas de pierre, mais c'est peut-être le sens du hiéroglyphe. Non, se dit-il, non, ce mot signifie dérobé. Peut-être que la pierre, c'est moi. Il tend la main et touche le bouchon en cristal, comme si c'était un signal, un sigle, pense-t-il. Le martèlement de la machine cesse. Au loin, très faiblement, il entend le carillon. Il essaie de faire tourner le bouton, sans succès, pas le moindre mouvement. Il pourrait aussi bien être moulé dans le béton. Dès qu'il retire sa main, le carillon se tait. Il contourne la porte, et la porte disparaît. Il avance encore et elle est revenue. Il fait lentement le tour, 3 fois, notant les points exacts d'apparition et de disparition. Il fait marche arrière, pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Il reste un certain temps à contempler la porte, en réfléchissant, puis il se dirige vers la machine au fond de l'étable. Il n'a mal nulle part lorsqu'il marche, alors. S'il a fait une grosse chute, son corps n'a pas été prévenu, mais bon Dieu, quelle chaleur là-dedans! Il voit des boxes pour chevaux abandonnées depuis longtemps. Il y a aussi un vieux tas de foin, et juste à côté, une couverture pliée proprement, et qui ressemble à une planche à pain. Et sur la planche, une lanière de viande séchée. Et il la prend, la renifle. Elle sent le sel. Et il l'engloutit. Il ne craint pas vraiment l'empoisonnement. Comment pourrait-on empoisonner un homme déjà mort? Tout en mâchonnant, il reprend ses explorations. À l'arrière de l'étable, il trouve une petite pièce, comme ajoutée après coup. Là aussi, la lumière filtre par les fissures dans les murs en bois, assez en tout cas pour lui permettre de voir la machine posée sur une dalle de ciment. Tout dans cette étable sent l'abandon et les années qui ont passé, mais ce gadget, qui rappelle une treilleuse mécanique, paraît flambant neuf. Ni rouille, ni poussière. Il s'en approche. Un tuyau chromé sort d'un côté, avec un tuyau d'écoulement juste en dessous. L'anneau d'acier autour a l'air humide. Sur le dessus de la machine, il y a une petite plaque de métal et à côté un bouton rouge. Il déchiffre l'inscription gravée sur le métal. Industrie Lamerck 83 47 89 AA 45 77 79. Ne pas retirer jeton, s'adresser à un responsable. Le bouton rouge porte l'inscription « Marche ». Callahan appuie dessus. Le martèlement fatigué repart, et au bout de quelques secondes, de l'eau jaillit du tuyau chromé. Il place la main sous le jet. L'eau est glaciale, surtout sur sa peau brûlante. Il boit. L'eau n'est ni douce ni amère, et il se dit « Les choses comme le goût ne doivent plus exister dans les grandes profondeurs. C'est... Salut, paternel !» Callahan pousse un cri de surprise. Il lève brutalement les mains, et l'espace d'une seconde, des gouttes d'eau scintillent comme des joyaux dans un rayon de soleil poussiéreux jaillissant entre deux planches disjointes. Il pivote sur les talons usés de ses bottes. Dans l'embrasure de la porte se tient un homme en robe à capuche. « C'est Serre, » pense-t-il. « C'est Serre, il m'a suivi. Il est passé par cette foutue porte. »«
Calme-toi, » dit l'homme. « Laisse reposer les réacteurs, comme dirait le nouvel ami du pistolero. »
Puis, sur le ton de la confidence, « Il s'appelle Jake, mais la gouvernante le surnomme Bama. » Et avec cet air ravi de quelqu'un qui vient d'être frappé par une idée géniale, il ajoute « Je voudrais te les montrer, tous les deux, mais peut-être est-il trop tard. Suis-moi !» Il tend la main. Les doigts que Callahan voit surgir de la manche sont longs et blancs, mais bizarrement déplaisants, comme de la cire. Mais Callahan ne fait pas mine de bouger, alors l'homme en robe s'adresse à lui d'une voix raisonnable. « Viens. Tu ne peux pas rester ici, tu sais. Ce n'est qu'un relais de diligence et plus personne ne s'y arrête depuis bien longtemps. Viens. Qui êtes-vous ?» L'homme en robe fait un tss-tss-tss-tss impatient. « Pas le temps, paternel. Le nom. Le nom. Qu'est-ce qu'un nom ?» comme l'a dit quelqu'un. « Shakespeare, Virginia Woolf. Qui s'en souvient ?» Viens, je te montrerai des merveilles, et je ne te toucherai pas. Je marcherai devant toi. Tu vois ? Il se retourne. Sa robe tourbillonne comme la corolle d'une robe de soirée. Il retourne dans l'étable, et au bout d'un moment, Callahan le suit. La pompe ne lui est d'aucune utilité, de toute manière, cette pièce n'est qu'un cul-de-sac. À l'extérieur de l'étable, il pourra peut-être courir. Mais courir où ? Ben, ça reste à voir, pas vrai.
L'homme en robe frappe à la porte en passant devant.
« Toc, 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 donnez-le des frocs, » dit-il avec bonne humeur en pénétrant dans le rectangle de lumière projeté par la porte de l'étable.
Callahan remarque qu'il porte quelque chose dans la main gauche, une boîte d'une trentaine de centimètres de long, de large et de profondeur. On la dirait faite du même bois que la porte, ou peut-être dans le même bois mais massif. En tout cas, elle est plus foncée et le grain en paraît encore plus serré. Tout en observant attentivement l'homme en robe dans l'intention de s'arrêter dès qu'il s'arrête, Callahan le suit dans la lumière du soleil. La chaleur est encore plus étouffante une fois qu'il est dehors, le genre de chaleur qu'on trouve dans la vallée de la mort. Et oui, en sortant de l'étable, ils constatent qu'ils sont bien dans le désert. À côté, un bâtiment croulant s'élève sur des fondations de grès en train de s'effriter. Ils supposent que c'était l'auberge autrefois, ou bien un décor de western abandonné. De l'autre côté, ils voient un corral dont la plupart des piquets sont effondrés, et au-delà, des kilomètres de sable jonchés de pierres et de rochers. Rien d'autre que...
Si, si, il y a quelque chose. Deux choses même. Deux minuscules points en mouvement à l'horizon.
Tu les vois ? Comme tu as de bons yeux, paternel. L'homme en robe, une robe noire avec une capuche qui dissimule son visage pâle, se tient à une vingtaine de pas de lui. Il glousse. Callahan n'aime pas plus ce bruit que l'aspect cireux de ses mains. Il lui rappelle le bruit de souris trottinant sur des os. Ça n'a aucun sens, il le sait, mais... Qui êtes-vous ? Où sommes-nous, là ? L'homme en noir pousse un soupir théâtral.
Ah ! Ça serait tellement long à expliquer, et on a si peu de temps.
Appelle-moi Walter, si tu veux. Quant à cet endroit, c'est un relais, comme je viens de te le dire. Un petit sas entre les mugissements de ton monde et les braillements du suivant.
Oh, tu t'es pris pour un grand vagabond, n'est-ce pas ? À suivre toutes ces autoroutes occultes.
Mais c'est maintenant que commence le vrai voyage, paternel.
Arrêtez de m'appeler comme ça !
S'écrie Callahan. Il a déjà la gorge sèche. La chaleur du soleil semble s'accumuler sur le dessus de son crâne, il en sent presque le poids.
Paternel, paternel, paternel ! Réplique l'homme en noir.
Il a l'air irrité, mais Callahan sait qu'il est en train de rire à l'intérieur. Il a comme l'impression que cet homme, s'il s'agit bien d'un homme, passe beaucoup de son temps à rire à l'intérieur.
D'accord, pas la peine de se fâcher pour si peu, je vais t'appeler Don.
Ça te va comme ça ? Au loin, les petites taches noires tremblotent. Les vagues thermiques les font léviter, disparaître, puis réapparaître. Bientôt, elles seront devenues invisibles.
« Qui est-ce » demande-t-il à l'homme noir.
« Des gens que tu rencontreras, certainement, » dit l'homme en noir d'un ton rêveur. Son capuchon bouge. Pendant une seconde, Callahan aperçoit l'arête cireuse du nez et la courbe d'un œil comme une petite coupe remplie de liquide noir. « Ils vont mourir sous les montagnes ?»
S'ils ne meurent pas sous les montagnes, il y a dans la mer occidentale des bestioles qui les mangeront tout cru.
Aïe, que chic !
Il éclate de nouveau de rire. Mais tout à coup, il a l'air beaucoup moins sûr de toi, mon ami, pense Callahan.
Si tout le reste échoue, poursuit Walter, voilà qui les tuera.
Il brandit la boîte. De nouveau, faiblement, le carillon résonne en un gazouillis déplaisant. Et qui va leur apporter ? Le cas, bien entendu. Pourtant, même le cas a parfois besoin d'un ami. D'un cas-mi.
Et ce sera toi.
Je ne comprends pas. Non, effectivement, constate l'homme en noir d'un air triste.
Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je suis comme le lapin blanc dans Alice, je suis en retard, pour un rendez-vous très important. Vois-tu, ils sont à ma poursuite, mais il fallait que je fasse un petit détour pour te parler. Vite, 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 et maintenant, il faut que je repasse devant toi, sinon comment les attirer là où je veux? Toi et moi, Don, il nous faut en finir avec cette palabre, bien qu'elle ait été trop courte, ce qui est regrettable. Allez, on retourne dans l'étable, amigo. Rapide comme un lapin. Et si je refuse? Sauf qu'il n'est pas question de « et si ». Plutôt se pendre que de retourner là-dedans. Pourquoi il ne demanderait pas à ce type de le laisser partir pour essayer de rattraper les deux petites taches tremblotantes? Pourquoi ne dirait-il pas « Alors mon noir, c'est là que je suis censé être, là où ce que tu appelles le cas veut que je sois ?» Mais il connaît la réponse. Autant cracher dans l'océan. Et comme pour confirmer ses suppositions, Walter lui dit « Peu importe ce que tu veux, tu iras où le roi décrétera que tu dois aller, et tu attendras là-bas. Si ces deux-là meurent en route, comme ce sera le cas à n'en pas douter, alors tu vivras une vie rurale, bien sereine, dans l'endroit où je t'envoie, et c'est aussi là que tu mourras, chargé d'ans et avec un sentiment erroné, mais sans doute très agréable, de rédemption. Tu vivras à ton niveau de la tour, bien longtemps après que je sois redevenu poussière, au mien. Voilà ce que je te promets, paternel, parce que je l'ai vu dans la boule de cristal. Ouais, et s'ils viennent? S'ils te rejoignent là où tu vas? Eh bien, dans ce cas fort peu probable, tu leur donneras toute l'aide que tu pourras, ce qui reviendra à les tuer. Ça en jette, pas vrai? Tu ne dirais pas que ça en jette? Et il s'avance vers Callahan. Callahan recule vers l'étable où l'attend la porte dérobée. Il ne veut pas y aller, mais il n'a pas le choix. « Ne vous approchez pas de moi !» lance-t-il. « Désolé, dit Walter, l'homme en noir, je ne peux pas te donner satisfaction. » Il tend la boîte à Callahan tout en ouvrant le couvercle. « Arrêtez !» s'exclame Callahan avec dureté. « Parce que l'homme en robe noire ne doit pas ouvrir la boîte. Il y a quelque chose de terrible dans cette boîte. Quelque chose qui terrifierait Barlow lui-même, ce vampire malin qui a forcé Callahan à boire son sang et qui l'a renvoyé dans les prismes de l'Amérique comme un enfant pleurnicheur qui devient embêtant. » « Continue, reculez, et peut-être que j'arrêterai, » le taquine Walter. Callahan recule dans l'ombre légère de l'étable. Bientôt, il se retrouvera à l'intérieur. Il n'y peut rien. Et il sent la présence de cette porte étrange à un seul côté. Il la sent comme un poids.
« Vous êtes cruel !»
hurle-t-il. Les yeux de Walter s'écarquillent et pendant un instant, il a l'air profondément blessé. Si absurde que ça puisse paraître, en regardant au fond des yeux insondables de cet homme, Callahan est presque certain qu'il est sincère. Et cette certitude lui retire tout espoir qu'il ne s'agit là que d'un rêve ou d'un dernier acte éclatant avant la mort. Dans les rêves, dans les siens en tout cas, les méchants, ceux qui font peur, ne ressentent jamais d'émotions complexes. Je suis ce que le cas, le roi et la tour ont fait de moi, comme chacun de nous, nous sommes piégés. Callahan se remémore les paysages de l'Ouest qu'il a traversés comme en rêve, les silos oubliés, les couchers de soleil inconnus et les ombres longues, et sa joie amère tandis qu'il traînait son piège derrière lui en chantant, jusqu'à ce que le cliquetis de ses propres chaînes finisse par jouer une jolie petite musique. « Je sais, » dit-il. « Oui, je vois que tu le sais. Recule. » Callahan est de nouveau dans l'étable. Il sent l'odeur douce et presque éventée du vieux foin. Détroit lui paraît tellement loin, comme une hallucination, de même que tous ses souvenirs de l'Amérique. « N'ouvrez pas ce truc, » dit Callahan, « et je ferai ce que vous demandez. »«
Quel excellent paternel tu fais, paternel !»
Vous avez promis de ne plus m'appeler comme ça. Les promesses sont faites pour être trahies, paternel.
Je ne pense pas que vous arriverez à le tuer, dit Callahan.
Walter fit la grimace. C'est l'affaire du cas, pas la mienne. Peut-être même que le cas n'y arrivera pas. Et s'il était au-dessus du cas?
Walter recule comme s'il venait de recevoir un coup. Je viens de blasphémer, se dit Callahan. Et avec ce type, j'ai comme l'impression que ça tire de l'exploit.
Personne n'est au-dessus du cas, faux prêtre, lui crache l'homme en noir. Et la pièce au sommet de la tour est vide, je le sais.
Bien que Callahan ne voit pas vraiment de quoi parle l'homme en noir, sa réaction est prompte et sûre.
Vous vous trompez. Dieu existe. Il attend de voir. Depuis son royaume, il...
Puis une foule de choses se produisent en même temps. La pompe dans l'alcôve se remet en route, reprenant son martèlement. Callahan se cogne au bois lisse et lourd de la porte. L'homme en noir lance la boîte vers l'avant tout en l'ouvrant, et sa capuche bascule en arrière, révélant le visage pâle et grimaçant d'une fouine humaine. Ce n'est pas serre, mais sur le front de Walter, comme une marque de castindou, il aperçoit ce même cercle rouge rempli de sang, comme une blessure qui ne coule ou ne cicatrise jamais. Et Callahan voit ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Il voit la 13e noire tapie sur du velours rouge comme l'œil visqueux d'un monstre qui aurait grandi dans l'ombre de Dieu. Et Callahan se met à hurler à sa vue quand il sent sa puissance infinie. La 13e pourra l'envoyer où elle veut, jusqu'au fin fond de nulle part. Et dans un déclic, la porte s'ouvre. Et malgré son état de panique, Callahan est encore capable de penser. C'est en ouvrant la boîte qu'il a ouvert la porte, et il recule en chancelant. Il entend des voix hurler, l'une d'elles est celle de Loupé, qui demande à Callahan pourquoi il l'a laissé mourir. Une autre appartient à Rowena Magruder, qui lui dit que c'est ça sa nouvelle vie, qu'il y est. Quel effet ça lui fait? Et il se couvre les oreilles des mains, mais il se prend les pieds dans ses bottes et bascule en arrière, en pensant que c'est en enfer que cet homme en noir me pousse. C'est bel et bien l'enfer. Et au moment où il lève les mains, l'homme à la tête de fouine ouvre complètement la boîte qui contient cet œil dans son orbite invisible. Et la boule bouge. Et Callahan se dit, elle est vivante. Cet œil a été arraché à un monstre au-delà du monde. Et mon Dieu, oh mon Dieu, il me voit. Pourtant, il prend la boîte. C'est la dernière chose au monde qu'il a envie de faire, mais il est dans l'incapacité de s'arrêter. « Ferme-la, il faut que tu la fermes, pense-t-il. » Mais il tombe, il a trébuché, ou bien le cas de l'homme en robe l'a fait trébucher. Et il tombe en tournant sur lui-même. En dessous de lui, toutes les voix de son passé l'interpellent, lui font des reproches. Sa mère veut savoir pourquoi il a laissé ce Barlow répugnant casser la croix qu'elle lui a achetée en Irlande. Et comble de l'absurde, il entend l'homme en noir lui crier « Bon voyage, paternel !» Callahan atterrit sur un sol de pierre jonché d'ossements de petits animaux. Le couvercle de la boîte se referme, et il a une seconde de soulagement sublime. Puis, il se rouvre, lentement, dévoilant l'œil. « Non !» murmure Callahan. « Je vous en prie, non !» Mais il ne parvient pas à refermer la boîte. Toute force semble l'avoir désertée, et elle ne se referme pas d'elle-même. Aux confins de l'œil noir, une tache rouge apparaît, qui lui, qui croit. Callahan est frappé d'horreur, il la sent enfler en lui, lui remplir la gorge, menaçant de figer son cœur dans son éternité de glace. C'est le roi, se dit-il, c'est l'œil du roi cramoisi qui regarde depuis la tour sombre, et c'est moi qu'il voit. Non ! Hurle Callahan, allongé sur le sol d'une grotte dans la région nord de l'arroyo de Calabrin Sturgis, ce lieu qu'il finira par aimer.
« Non, non, ne me regarde pas! Oh, pour l'amour de Dieu, ne me regarde pas !»
Et pourtant, l'œil le regarde. Et Callahan ne supporte pas son regard dément. C'est à ce moment-là qu'il s'évanouit. Il mettra 3 jours à rouvrir les yeux. Et alors, il se trouvera parmi les Mani. 19. Callahan leur adressa un regard las. Ils avaient largement passé minuit, grand merci, et il ne leur restait maintenant plus que 22 jours avant que les loups viennent chercher leur butin d'enfant.
Il termina son verre de cidre, grimaça comme s'il s'agissait de bourbon pur, puis reposa le gobelet vide.
Et vous connaissez la suite, comme on dit. Ce sont Enchik et Jemin qui m'ont trouvé. Quand Enchik a refermé la boîte, la porte s'est refermée, elle aussi. Et la grotte des voix est devenue la grotte de la porte.
Et vous, mon père ? Demanda Suzanne. Qu'ont-ils fait de vous ?
Ils m'ont emmené dans la cabane de Enchik, dans son kra. C'est là que j'étais quand j'ai ouvert les yeux. Tout le temps que je suis resté inconscient, ces femmes et ces filles m'ont fait boire de l'eau et du bouillon de poulet au goutte à goutte avec un chiffon imbibé.
Par simple curiosité, combien de femmes a-t-il ? Demanda Heidi.
Trois, mais il ne peut avoir de relation qu'avec une seule à la fois, fit distraitement Callahan. Ça dépend des étoiles ou quelque chose comme ça. Elles m'ont bien soigné. Puis, je commençais à parcourir la ville. À cette époque, on m'appelait le vieux qui marche. Je n'arrivais toujours pas bien à comprendre où j'étais, mais en un sens, mes errances passées m'avaient préparé à cette situation. Elles m'avaient renforcé mentalement. Dieu sait qu'il y avait des jours où je pensais que tout ça se déroulait dans la seconde ou les deux secondes précédant l'instant où j'allais m'écraser sur Michigan Avenue, que l'esprit se prépare à la mort en offrant une ultime et fabuleuse hallucination qui a vraiment l'apparence de toute une vie. Et il y avait des jours où je me disais que c'était devenu ce que nous redoutions tous le plus au foyer et au phare. Un cerveau noyé. Je pensais que peut-être on m'avait collé un coup de pied dans une institution minable quelque part et que j'imaginais toute cette histoire. Mais disons surtout que j'acceptais la situation. J'étais heureux d'avoir finalement atterri dans un bon endroit, réel ou imaginaire. Quand j'ai recouvré mes forces, je suis revenu à mes vieilles recettes pour gagner ma vie, les vieilles recettes de la route. Il n'y avait pas d'agence Manpower à Calabrian Sturgis, mais c'était des années fastes et il y avait beaucoup de travail pour un homme prêt à se remonter les manches. C'était les années de grand riz, comme ils disent, même si le reste des récoltes et le bétail donnaient aussi de bons résultats. Et puis, j'ai fini par me remettre à prêcher. Je n'ai pas pris consciemment la décision de le faire. Dieu sait que je n'ai pas prié pour ça. Et quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que ces gens savaient tout de l'homme Jésus. Il éclata de rire. Et en plus de l'Andela, de Ritza et de Buffalo Star, vous connaissez Buffalo Star, Roland ?
Oh oui, fit le pistolero, se remémorant un prêcheur de ce genre qu'il avait été forcé d'abattre.
Mais ils écoutaient, bon nombre d'entre eux, en tout cas, et quand ils ont affaire de me construire une église, j'ai dit grand merci. Et voilà, l'histoire du vieux, comme vous pouvez le voir, vous en faites partie, l'un d'entre vous au moins. Jake, c'était après ta mort ?
Jake baissa la tête. Sensible à sa peine, Otte poussa un gémissement. Mais lorsque Jake prit la parole, ce fut une voix assez assurée. Après ma première mort, avant la seconde ?
Callahan fut visiblement troublé par cette réponse et se signa.
Tu veux dire que ça peut arriver plus d'une fois, Sainte Marie, Mère de Dieu ?
Rosalita les avait laissés parler. Elle revint avec une scintille. Celle posée sur la table s'était presque entièrement consumée et la véranda baignait dans une lumière faible et vacillante qui était à la fois étrange et un peu lugubre. « Les lits sont prêts ? » annonça-t-elle. « Ce soir, le garçon dormira avec le père. » Eddie et Susanna comme avant-hier. Erond ? Demanda Callahan en haussant ses sourcils broussailleux.
J'ai un petit coin douillet pour lui, répondit-elle d'un ton impassible. Je lui ai montré un peu plus tôt.
Ah oui, dit Callahan. Tiens donc. Bon, madame. C'est réglé, j'imagine. Il se leva. Je ne me rappelle pas avoir été aussi fatigué depuis une éternité.
Nous allons veiller encore quelques minutes, si cela vous sied, dit Roland. Rien que nous quatre.
Comme vous voudrez, dit Callahan. Susanna lui prit la main et l'embrassa impulsivement.
Merci de nous avoir raconté votre histoire, mon père.
C'était bon de pouvoir finir de la raconter, Sai.
Roland demanda. La boîte est restée dans la grotte jusqu'à la construction de l'église ? De votre église ?
Si fait. Je ne sais pas combien de temps, 8 ans, peut-être moins, difficile à dire avec certitude. Mais il est venu un moment où elle a commencé à m'appeler. J'avais beau détester, craindre cet œil, une partie de moi voulait le revoir.
Roland hocha la tête.
Tous les fragments de l'arc-en-ciel du magicien sont pleins de glam, mais on dit depuis toujours que la 13e noire est la pire. Maintenant, je crois savoir pourquoi. C'est parce que c'est le véritable œil du roi cramoisi.
Et il nous regarde. Quoi qu'il en soit, j'ai senti que ça m'appelait vers la grotte et au-delà. À me chuchoter qu'il fallait que je reprenne mes pérégrinations, et à tout jamais. Je savais que je pourrais ouvrir la porte en ouvrant la boîte. La porte m'amènerait où je voudrais, et quand je voudrais. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me concentrer.
Callahan réfléchit un moment, puis se rassit. Il se pencha en avant et les regarda tour à tour au-dessus de l'entrelac noueux de ses mains croisées.
Écoutez-moi, je vous prie. Nous avions un président, il s'appelait Kennedy. Il a été assassiné quelques 13 ans avant mon arrivée à Salem Slot. Il a été assassiné dans l'Ouest.
Oui, dit Susanna. C'est Kennedy.
Tu le gardes. Elle se tourna vers Roland.
C'était un pistolero.
Roland haussa les sourcils.
Vrai ? Si fait. Et je dis vrai.
Quoi qu'il en soit, fit Callahan, on s'est toujours demandé si l'homme qui l'avait tué avait agi seul, ou bien si c'était un pion dans un complot bien plus vaste. Et il m'arrivait de me réveiller en plein milieu de la nuit et de me dire « Pourquoi vas-tu pas voir ? Pourquoi ne te plantes-tu pas devant cette porte la boîte dans les bras en pensant très fort ?»« Dallas, 22 novembre 1963, parce que si tu fais ça, la porte s'ouvrira et tu pourras aller là-bas exactement comme ce personnage dans l'histoire de Monsieur Wells, celle de la machine à remonter le temps. » Et peut-être que tu pourras changer le cours de ce qui s'est passé ce jour-là. S'il y a bien eu un tournant dans l'histoire de l'Amérique, c'est ce jour-là, en changeant ça, on changeait toute la suite. Le Vietnam, les émeutes racistes, tout.
Bon Dieu, fit Eddie avec respect, car on ne pouvait pas nier qu'une telle ambition forçait au moins le respect. C'était ce qu'on faisait de mieux dans le genre, avec le capitaine à jambes de bois chassant la baleine blanche.
« Mais, mon père, si vous l'aviez fait et que ça avait tout changé, mais en pire. »«
Jack Kennedy n'était pas un homme mauvais, » dit Susanna. « Jack Kennedy était un homme bon, un grand homme. »«
Peut-être bien, mais vous savez quoi ? Je pense qu'il faut... » Un grand homme pour faire une grosse erreur. De plus, il aurait pu venir après lui un vrai méchant, un grand chasseur du cercueil qui n'en a pas eu l'occasion à cause de Lee Harvey Oswald ou qui qu'il soit. Mais la boule ne permet pas ce genre de pensée, dit Callahan. Je crois qu'elle pousse les gens à des actes odieux en leur susurrant à l'oreille qu'ils vont faire le bien, que non seulement ils vont arranger un peu les choses, mais qu'ils vont tout arranger.
Ouais, acquiesça Roland d'une voix aussi sèche qu'une brindille qui éclate dans les flammes.
Vous pensez qu'un tel voyage dans le temps est possible ? Demanda Callahan. Ou bien cette chose était-elle très persuasive dans son mensonge, dans son aura ?
Je crois que c'est possible, répondit Roland. Et je crois que quand nous quitterons la Cala, ce sera par cette porte.
J'aimerais tellement pouvoir venir avec vous,
fit Callahan avec une véhémence surprenante. Peut-être bien que ce sera le cas, dit Roland. Quoi qu'il en soit, vous avez fini par mettre la boîte et la boule à l'intérieur dans votre église.
Pour la faire taire. Oui, ça a marché dans une certaine mesure. Elle passe presque tout son temps à dormir.
Pourtant, vous avez dit que vous étiez allé deux fois à Varalash. Callahan acquiesça. Cette violence qui s'était enflammée comme une pomme de pin dans la cheminée avait disparu tout aussi vite. À présent, il avait seulement l'air fatigué et très vieux.
La première fois, c'était vers le Mexique. Vous vous rappelez, tout au début de mon histoire, l'écrivain et l'enfant qui croyaient.
Ils firent oui de la tête.
Une nuit, la boule m'a appelé pendant mon sommeil et m'a emmené Badash à Los Zapatos, au Mexique. C'était pour des obsèques, les obsèques de l'écrivain.
Ben Meas, dit Eddie, le type de la danse de l'air.
Oui.
Et des gens vous ont vu ? Demanda Jake. Parce que nous, personne ne nous voyait.
Callahan secoua la tête. Non, mais ils me sentaient. Quand je marchais vers eux, ils s'écartaient, comme si je m'étais transformé en courant d'air froid. En tout cas, le garçon était présent. Mark Petrie. Sauf que c'était plus un garçon. C'était un jeune homme, ce qui m'a permis de déduire de ça et de ce qu'il disait de Ben. Il y a eu une époque où j'aurais dit que 59 ans c'était vieux, avait-il dit en guise d'introduction à son oraison, qu'on était au milieu des années 1990. Mais je ne suis pas resté longtemps. Assez longtemps néanmoins pour vérifier que mon vieil ami du bon vieux temps s'en était bien tiré. Peut-être que j'avais fait une bonne action à Salem Slot, après tout.
Il marqua une pause, puis poursuivit.
Dans son oraison funèbre, Mark a parlé de Ben comme de son père. J'en ai été très profondément touché.
Et la deuxième fois que la boule vous a envoyé Varalash, demanda Roland. Cette fois, elle vous a envoyé au château du roi.
Il y avait des oiseaux, de gros oiseaux noirs. Et pour le reste, je ne peux pas en parler, pas au beau milieu de la nuit.
La note dure dans la voix de Callahan ne supposait aucune contestation. Il se leva de nouveau.
Une autre fois, peut-être.
Roland s'inclina.
Grand merci. Vous ne rentrez pas, les amis.
Tout de suite, répondit le pistolero. Ils le remercièrent encore pour son récit, même E.T.I. alla de son aboiement endormi, et lui souhaitèrent bonne nuit. Ils le regardèrent s'éloigner, et pendant les quelques secondes qui suivirent, personne ne parla. 20. C'est Jake qui rompit le silence.
ce type, Walter. Il était derrière nous, Roland. Quand on a quitté le relais, il était derrière nous. Et le père Callahan aussi.
Ouais. À ce moment-là, Callahan faisait partie de notre histoire. J'en ai l'estomac serré, comme si j'avais perdu la gravité. Eddie se tamponna le coin de l'œil. Quand tu montres de telles émotions, Roland, ça me rend tout chaud et tout mou à l'intérieur. Roland lui lança un regard vide.
« Allez, quoi ? Arrête ce fou rire !» commenta Eddie. « Tu sais que j'adore ça quand tu comprends mes blagues, mais là, t'en fais un peu trop. »«
J'implore ton pardon, » dit Roland avec un faible sourire. « J'ai un humour du genre Cousteau. »«
Et le mien serait plutôt du genre à faire une nuit blanche, » dit Eddie d'un ton jovial. « Ça me tient éveillé. »«
Il me raconte des histoires. » « Toc, toc, qui est là, Tamita ? Tamita qui ? Tamita culotte à l'envers.
« Ça va mieux ?» demanda Roland quand il eut terminé.
« Pour le moment, oui, mais t'inquiète pas, Roland, ça finit toujours par revenir. Je peux te poser une question ?»«
Une question stupide ?»«
Je crois pas, j'espère que non. »«
Alors vas-y. »
Ces deux hommes qui ont sauvé la couenne de Callahan dans cette laverie de l'Eastside, tu crois que c'était qui je crois que c'était ?
Qui crois-tu que c'était ?
Eddie jeta un regard en direction de Jake.
Et toi, ô fils d'Elmer, une idée ?
Bien sûr, répondit Jake.
C'était Calvin Tower et cet autre type de la librairie, son ami, celui qui m'a posé la devinette de Samson et celle du fleuve. Il claqua les doigts une fois, puis une deuxième, et un large sourire illumina son sourire.
« Aaron Dipnow. »
Et cette bague que Callahan a mentionnée ? Lui demanda Eddie.
« Celle avec l'inscription Ex Libris. J'ai vu aucun des deux porter ce genre de bague. »«
Mais as-tu regardé ? » demanda Jake.
« Non, pas vraiment, mais... »«
Et rappelle-toi qu'on l'a vu en 1977 ?» ajouta Jake. « Et c'est en 1981 qu'ils ont sauvé la vie du père. Peut-être que cette bague a été donnée à M. Tower dans les 4 ans qui ont suivi. Un cadeau. Ou bien il s'est peut-être acheté lui-même. »«
Ce ne sont que des suppositions, » fit Eddie.
« Ouais, » admit Jake.
« Mais Tower est propriétaire d'une librairie, alors le fait d'avoir une bague avec l'inscription Ex Libris, ça colle assez. Tu vas pas me dire que ça cloche quand même. »
Non, je dirais que ça colle, à 90%.
Mais comment aurait-il pu savoir que Callahan, Eddie laissa sa phrase en suspens, considéra la question, puis secoua la tête d'un air décidé.
Non, je ne peux m'attaquer à cette question ce soir, parce que après, on va se mettre à parler de l'assassinat de Kennedy et je suis fatigué.
Nous sommes tous fatigués, conclut Roland. Et nous aurons beaucoup à faire dans les jours à venir. Pourtant, le récit du père me laisse dans un état de trouble étrange. Je ne peux dire s'il répond à plus de questions qu'il n'en soulève, ou si c'est l'inverse. Personne ne sut quoi répondre à ça. Nous sommes un quatet, et maintenant nous voilà assis en antet, en conseil. Il a beau être tard, il y a autre chose dont vous vouliez discuter avant que nous nous séparions. Si tel est le cas, parlez. » Et devant l'absence de réaction, Roland repoussa sa chaise.
« Très bien.
Alors, je vais vous souhaiter une seconde. »
C'était Susanna. Elle n'avait pas parlé depuis tellement longtemps qu'il l'avait presque oubliée. Et lorsqu'elle prit la parole, ce fut d'une petite voix qui ne lui ressemblait pas. En tout cas, qui ne ressemblait pas à la femme qui avait dit à Ibn Touk que s'il l'appelait encore une fois Maron, elle lui arracherait la langue pour lui torcher le cul avec.
« Il y a peut-être quelque chose ?» de la même petite voix. « Quelque chose d'autre ?»
d'une plus petite voix encore.
Elle
les regarda, chacun à son tour, et lorsque ses yeux se posèrent sur le pistolero, il y vit du chagrin, des reproches et une grande lassitude. Il ne vit pas de colère. Si elle avait été en colère, se dit-il ensuite, j'aurais sans doute eu moins honte.
Je crois que il y a peut-être un petit problème, dit-elle. Je ne vois pas comment ça a pu. Comment ça pourrait. Mais les gars, je crois qu'il n'est pas impossible que j'attende un enfant.
Ces paroles prononcées, Susanna Dean, Odetta Holmes, Detta Walker, Mia, fille de personne, se couvrit le visage de ses mains et fondit en larmes.